Micro Cité spéciale Forum des métiers. Le 19 mars dernier, le centre culturel Maurice Thermot de Sillé-le-Guillaume accueillait le forum des métiers de la cité scolaire Paul Scarron, organisé par les élèves de 3e option découverte professionnelle. Ainsi, une quarantaine de professionnels de divers secteurs ont répondu présents pour rencontrer le public scolaire venu de plusieurs établissements du Nord-Sarthe et des demandeurs d'emploi envoyés par la Maison de l'Emploi Sarthe-Nord, partenaire du forum. L'occasion pour quelques élèves de s'improviser journaliste et d'inviter quelques-uns des professionnels au micro de Fréquence Cité. Dans cette première émission, vous retrouverez Monsieur Rougès, peintre décorateur, Madame Buon, conseillère économique sociale et familiale, Madame Poincheval, technicienne vocale, Monsieur Garlot, sapeur-pompier et Monsieur Guillerminet, géomètre. Et pour commencer, un bilan de ce forum des métiers avec Pascal Dessomme, enseignant en musique, un des principaux acteurs dans l'organisation de ce forum.
Le forum des métiers maintenant terminé, nous recevons M. Dessomme, professeur de musique à la cité scolaire Paul Scarron et organisateur du forum des métiers, en compagnie de Laura et de Steven qui vont l'interviewer.
Bonjour.
Bonjour.
Quel est le bilan du forum des métiers ?
Bilan mitigé, je vais dire, aujourd'hui, parce que au niveau du remplissage professionnel, on avait 47 stands, donc très positif. Des élèves de l'option découverte professionnelle motivés, qui ont bien fait leur travail. On reviendra un petit peu plus en détail ensuite. Mais en observant un petit peu ce qui s'est passé sur place, un petit peu déçu de la part des visiteurs, dans le sens où on a pu voir des élèves, d'ici et d'ailleurs, hein, puisqu'on avait plusieurs établissements du secteur représentés, qui venaient sans bloc-notes, sans crayon, qui restaient dans un coin sans aller voir les professionnels. Et à ce point, c'est un petit peu décevant, pour ce point-là, en tout cas.
Combien de professionnels ont participé ?
Ce que je viens de dire, il y avait 47 professionnels, alors différents métiers représentés, hein, charpentier, opticien, fleuriste, notaire, boucherie aussi, magasin, Super U d'ici, de Sillé-le-Guillaume. Et puis, en tout cas, on avait 47 métiers. Bon, il y avait une palette de métiers assez représentatifs. Bien sûr, tout le monde ne peut pas venir, évidemment, parce que les gens viennent sur leur temps personnel. D'ailleurs, je remercie les professionnels qui ont pu se déplacer et donner de leur temps pour venir expliquer à nos jeunes leur métier, leur parcours, pour leur donner envie peut-être plus tard d'exercer la même profession.
Quel public était présenté ?
Alors, le public présent, oui. Oui, le public présent, bien sûr, il y avait la cité scolaire Paul Scarron. Donc nos élèves de 4e, de 3e et de 2e. Bon, ce qui est un petit peu dommage pour nos 2e, donc du lycée Paul Scarron, c'est que c'est la 3e fois qu'ils venaient. Et effectivement, 3 fois sur un forum des métiers, bien que les métiers qui étaient présents lundi dernier n'étaient pas les mêmes. Bon, ils se sont un petit peu lassés. Ça, par contre, on peut le comprendre. C'est peut-être une chose à modifier pour les années à suivre, si nous continuons à faire ce forum, bien évidemment. Il y avait 3 collèges, donc Fresnay-sur-Sarthe, Beaumont-sur-Sarthe et Conly, qui sont venus avec leurs élèves de 3e. Et la Maison de l'Emploi Sarthe-Nord, à partir de 16h, a fait venir, puisque la Maison de l'Emploi Sarthe-Nord, et on travaille ensemble pour ce forum depuis 3 ou 4 ans maintenant. Et donc à partir de 16h, ils ont fait venir des jeunes en recherche d'emploi, tout simplement. En recherche d'une orientation aussi, peut-être.
La salle a été louée ou prêtée ?
Elle nous est prêtée gracieusement depuis ça fait 3 ans à peu près. D'ailleurs, je remercie sincèrement la ville de Sillé-le-Guillaume qui nous prête ses locaux sans contrepartie financière. Donc c'est bien agréable. Donc de nouveau, je les remercie.
Est-ce que l'organisation de ce forum demande beaucoup de temps ?
Oui, elle demande beaucoup de temps. Un investissement de la part des professeurs, hein, on est 3 professeurs, donc Madame Guézé, Monsieur Zimmer et moi-même, Nous encadrons chacun 18 élèves, donc à peu près. Hein. On a 52 élèves qui font partie de l'option découverte professionnelle. Au départ, pour le but, c'est de contacter par téléphone les professionnels. Et c'est pas une mince affaire parce que les élèves collégiens de 13-14 ans, on va dire, n'ont pas l'habitude de téléphoner à des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est pas évident pour eux. Donc, c'est un bel apprentissage. Donc, bah, c'est un investissement parce que ça demande du temps, beaucoup de temps. Après, il y a des courriers de confirmation aussi à envoyer. Nous avons à relancer aussi certains professionnels parce que, bah, bien sûr, ils ont leur métier, puis ils n'ont pas toujours le temps. Et ils n'y pensent pas toujours et ça, on peut le comprendre aussi. Et puis ensuite, eh bien, y a l'organisation de la salle, les plaquettes avec le nom des professionnels sur leur table. Enfin bon, ça demande, on va dire, peut-être 4-5 mardis de 2 heures pour l'organisation. Et on ramène du travail à faire chez nous. Voilà, pour que ce soit le mieux possible. Voilà, donc c'est beaucoup de travail, oui.
Donc on peut dire que sans l'option découverte des métiers, ce forum n'aurait pas lieu.
Ah, sans l'option découverte professionnelle, non, parce que il faut qu'il y ait cette option pour justement peut-être faire ce forum. Alors, tous les collèges ne font pas, mais je sais que on avait, en fin de compte, l'option découverte professionnelle existe depuis 5 ans, je crois, il me semble, et Madame Degnaud, qui était principale adjointe, je pense que vous l'avez peut-être reconnue, vous qui êtes en troisième cette année, est à l'initiative de ça. Nous avons Monsieur Zimmer, et à l'époque c'était Madame, notre collègue d'anglais, son nom m'échappe, Madame Girel, pardon, et Monsieur Zimmer nous avait un petit peu lancé sur ce projet, option découverte professionnelle, et je sais que de son côté, puisqu'elle est sur Le Mans aujourd'hui, il existe aussi dans son collège actuel cette option qu'elle a dû aussi remettre au goût du jour, et notamment le forum.
Êtes-vous prêt à organiser un forum de métier l'année prochaine ?
Oui, je suis toujours prêt. Mais il y aura des petites choses à rectifier. De notre part, il y a certainement des choses pour qu'on puisse progresser. Hein. On progresse toujours. Mais aussi de la part de certains élèves aussi, qu'il faudra peut-être... une forme ou une autre
mobiliser
exactement, oui, parce que c'est à ce point de vue là que je me pose la question vraiment, et qu'il y ait une préparation en amont aussi, que les élèves n'arrivent pas les mains dans les poches en se demandant ce qu'ils viennent faire ici. Alors je parle pas d'une majorité, bien évidemment.
Mais le fait que ces élèves peut-être sont moins curieux, vont pas vers de l'avant, est-ce que c'est pas révélateur d'une certaine génération qui a du mal à se projeter dans l'avenir aussi ?
Alors ça, je pense qu'il y a ce fait, effectivement. Il y a une génération qui, vu la conjoncture actuelle, certainement, hein, ils entendent, ils voient, ils écoutent, ils sont peut-être eux-mêmes dans leur propre famille confrontés à ça, et il y a à ce niveau-là, oui, certainement un impact. Ça, j'en suis aussi persuadé. C'était à dire, effectivement. Il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a les deux, bien sûr.
Ça se prépare.
Ça se prépare.
Des rencontres avec des professionnels quand on a 14 ans, 15 ans, que c'est la première fois pour certains, parce qu'on est quand même assis à Guillaume. C'est le seul forum des métiers sur le Nord-Sarthe. Mm-hmm. Donc, des jeunes qui n'ont pas forcément même l'occasion d'aller rencontrer l'artisan ou la profession à côté de chez eux. Donc, tout ça, ça se prépare.
Ça se prépare, oui. Ça demande une... un investissement, bon, de la part des adultes. L'expérience que j'ai de l'option découverte professionnelle, et puis si Mme Guézé, M. Zimmer étaient là, ils diraient certainement la même chose, c'est qu'on arrive dans nos propres groupes quasiment à tous les motiver pour un projet ou un autre. Ah, il y a des choses qui leur plaisent moins, c'est normal, c'est humain. Mais quand on fait, par exemple, moi j'ai pu observer dans mon groupe de 18 enfants, bien sûr j'en ai un ou deux qui ont eu du mal à se lancer parce que par timidité ou par désintérêt peut-être, mais pour ce forum, moi j'ai eu 16 élèves vraiment qui étaient dedans, vraiment. Et faut les amener, quoi. Faut leur pousser aux fesses pour qu'ils arrivent à s'intéresser. Et je pense que pour ensuite les élèves qui viennent en tant que visiteurs, il faut faire la même chose. Alors peut-être que de notre côté, il y a peut-être des choses à améliorer, hein. L'information peut-être un petit peu plus en détail à donner. certes aussi, je pense que c'est pas de la faute que des autres, il faut se remettre en cause aussi, mais je crois que oui, en essayant de motiver, de leur dire l'intérêt et surtout leur dire qu'ils soient curieux. Hein, moi, ce que je me suis étonné au jour, enfin, lundi dernier, c'est qu'il y a un manque de curiosité. Moi, un exemple simple, j'ai vu des élèves, des grandes chez nous, on va dire, parce qu'ils étaient de Sillé, qui sont arrivés à l'entrée, donc à l'accueil, où des élèves de l'option découverte professionnelle les recevaient. Ils sont arrivés, ils ont pris donc le questionnaire de satisfaction du forum. Sans être rentrés dans la salle, ils ont commencé à remplir déjà le questionnaire. Bon, je vois pas l'intérêt là. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Voilà. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, bilan mitigé.
Et vous, est-ce que vous pensez que les professionnels ont été satisfaits d'après le questionnaire de satisfaction?
On a commencé à regarder un petit peu avec ma collègue Madame Guézé, et effectivement, globalement, oui, les professionnels sont satisfaits de leur venue. Je pense qu'ils sont honnêtes, mais franchement, il y a toujours des petites choses à améliorer. Souvent, ce qui revient un petit peu en point négatif sur leur retour, c'est que, bien sûr, on leur pose toujours les mêmes questions, mais bon. C'est un peu ça. Mais sans ça, globalement, lorsqu'on leur demande « Êtes-vous prêt à revenir l'année prochaine ?» Allez, je vais dire 95-96% des réponses sont positives. Donc ça veut dire qu'ils sont bien sentis.
Une dernière question, donc surtout, ce sont les scolaires qui sont invités à ce forum des métiers. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une petite demi-heure à la fin qui est réservée donc au grand public. La Maison de l'Emploi Sarthe Nord, par exemple, qui fait venir des stagiaires de Via Formation ou des gens qui sont demandeurs d'emploi. Est-ce qu'on pourrait prévoir que justement ce forum des métiers s'élargisse à un public plus large que les scolaires?
Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir ce forum pour des gens un petit peu plus âgés, donc qui sont en recherche d'idées ou d'emploi, que les portes du forum soient ouvertes de 13h30 à 16h30 pour eux aussi. Pourquoi pas, c'est à mettre et à rediscuter, il y a des choses à remettre à plat. C'est réservé aux scolaires, certes, parce que c'est organisé dans le cadre de la cité scolaire. On invite nos voisins, collégiens, donc de Beaumont, de Beaumont, Conly et Fresnay-sur-Sarthe. Mais pourquoi ne pas ouvrir ce forum avec de la publicité par l'intermédiaire de Fréquence Sillé, par exemple, et puis par les affiches que l'on peut mettre dans les magasins Sillé, pourquoi pas ouvrir ça, bien sûr, à des gens qui sont sur le secteur en recherche d'emploi. Ça peut leur ouvrir des portes, peut-être aussi. Il y a des professionnels, parfois, qui n'arrivent pas à trouver d'apprentis, d'employés, et en discutant, si cette personne en face d'eux paraît passionnée, pourquoi pas, c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Et que l'on peut éventuellement déboucher sur quelque chose de concret pour ces gens qui sont en recherche d'un travail, ou d'un emploi, ou d'une formation.
Et on remercie particulièrement Monsieur Dessomme qui a pu répondre à toutes nos questions et qui sera là l'année prochaine, on espère.
Bien sûr, on essaiera de refaire mieux. Il n'y a pas de problème là-dessus et c'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé quelques instants. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Micro cité spécial forum des métiers.
Et on continue en direct du forum des métiers de Ciel-Guillaume avec Steven et son invité Monsieur Rougès. Bonjour Steven.
Bonjour Monsieur Rougès, vous êtes peintre en bâtiment. Que faites-vous exactement dans ce métier ?
Bonjour, donc Guy Rougès, peintre décorateur. Et effectivement, quand on dit peintre en bâtiment, ça concerne à la fois l'entretien du patrimoine, des maisons, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et quand je dis décoration, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne l'environnement de la maison, en termes de couleur, d'aménagement, la luminosité du lieu d'habitation.
Où exercer ce métier et est-il possible de créer sa propre entreprise?
Alors tout à fait, ce métier s'exerce, je dirais notamment chez les particuliers, mais on travaille aussi pour des collectivités, pour plein de... La clientèle est très vaste. Et on peut effectivement, après une bonne formation et quelques années d'exercice de ce métier, s'installer sans aucun problème.
Quelle formation faut-il faire?
Alors la formation, c'est en passant par un CFA et intégré une entreprise d'un maître d'apprentissage, donc il y a un CAP, un brevet professionnel. Et puis après, des formations complémentaires comme des mentions décoration. Enfin, je dirais, c'est un métier qui évolue constamment. Donc, enfin, j'en suis la preuve, hein, puisque moi, je vais avoir 60 ans au mois d'août et je continue à faire des formations, ce qu'on disait tout à l'heure.
Quelle est l'évolution dans la pratique du métier ?
Très importante, notamment ces dernières années. Là, depuis les 5 dernières années, notre métier a vécu une très grande transformation par rapport aux produits, puisqu'en matière de protection de l'environnement, les fabricants ont été obligés de diminuer les composants organiques volatiles, les fameux COV, et on est passé par un réapprentissage de notre profession, puisque nous, avec ces nouveaux produits, on est passé par tous des stades de difficultés qu'on ne connaissait plus. Mais les techniques d'application, les réactions des produits étant très différentes de ce qu'on connaissait avant avec les produits solventés, donc on a été obligé de réapprendre. Et c'est un produit qui est en constante évolution. C'est-à-dire, on le voit bien en termes de décoration. Aujourd'hui, il suffit de regarder les émissions de télévision. Vous avez une multitude de produits sur le marché qui arrivent tous les ans et c'est à nous de les utiliser.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?
Oh, moi, à mon avis, il y aurait... Mais ça fait 35 ans que je pratique ce métier. Pour moi, il n'y a que des avantages. Maintenant, les inconvénients, on va dire, en termes de pratique, alors ça serait peut-être au niveau des ponçages, la poussière, des choses comme ça, voilà... Puisque avant de faire beau, bah forcément, on passe par la phase de préparation, donc les enduits. Quoique maintenant, pour poncer, on a des ponceuses avec des aspirateurs. Bon, c'est quand même un petit peu plus, souple.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Alors moi, je vais répondre, ça va peut-être vous faire sourire. Je suis comme Obélix, je suis tombé dans le fût de peinture. Moi, aussi loin je me souvienne, j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné, donc j'étais voué à faire un métier qui me permette d'évoluer dans la peinture. Hein, puisque en plus de mon métier donc de peintre, je fais aussi de la fresque et du décor peint.
Alors, est-ce que c'est vous qui organisez votre emploi du temps ?
Alors tout à fait, hein. L'entreprise est constituée de 6 personnes et l'emploi du temps, c'est-à-dire le planning est calé en fonction des demandes des clients, des signatures des marchés, et tout ça c'est programmé dans le temps, donc on sait toujours demain par exemple où on va et quelle équipe va à tel endroit, et voilà.
Merci Monsieur Rougis d'avoir répondu à mes questions.
Ben, je vous en prie.
Et bonne fin d'après-midi.
Merci, de même.
Au revoir.
Bonjour à tous, je suis avec Sophie et son invitée Madame Bion qui vous vont présenter le métier de conseillère économique, sociale et familiale.
Alors bonjour Madame Bion.
Bonjour.
Vous êtes conseillère économique, sociale et familiale.
Oui.
Alors en quoi consiste votre métier ?
Mon travail, c'est d'accompagner les gens dans tout ce qui est du domaine du quotidien, de la vie quotidienne, en fin de compte. Donc le logement, le budget, l'alimentation, les relations, l'enfance, tout ce qui touche le quotidien. Je resitue un petit peu où je travaille actuellement. Donc je travaille au Conseil Général de la Sarthe. Et donc j'accompagne les personnes tout public dans tout ce qui est domaine du budget dans un premier temps. Donc c'est vrai que j'ai souvent des personnes qui sont en grande difficulté financière où il faut trouver des solutions pour qu'elles réapprennent à gérer leur budget et qu'elles redeviennent autonomes, qu'elles fassent les courriers, les paiements pour qu'elles retrouvent une activité ensuite, qu'elles passent à autre chose.
Quelles qualités faut-il avoir ?
De l'écoute, savoir négocier et de temps en temps imposer. Donc, et puis on est face à des personnes, donc il faut aussi être de temps en temps se dire, ben, ce sont des humains, on ne peut pas tout interdire et tout gérer. Donc leur laisser aussi la possibilité de gérer, de reprendre les choses en main. Donc, et une grande patience aussi.
Combien d'années d'études faut-il et dans quelle école?
Alors, il faut faire un BTS ESF, donc en 2 ans. Et ensuite, une année de spécialisation, c'est le DE de conseillère ESF. Donc, il y a des écoles de BTS à Laval, au lycée Réaumur, à Ifori, c'est Angers. Après, il y en a sur Rennes, Caen. Le chapeau sur, en Sarthe, à Neuville, fait la formation, mais en alternance. Donc ça, c'est en 2 ans. Et après, la 3e année, donc une année supplémentaire. Et là, ça se fait Iforis. Moi, je l'ai fait à Caen, à l'IRTS.
Quelles sont les possibilités d'évolution de carrière?
Alors, au niveau du conseil général, c'est vrai qu'on a une grille. Donc, on est assistant socio-éducatif. Et on peut devenir principal. Et après, faire des concours pour être responsable. Donc, voilà un peu l'évolution de carrière. Mais il y a aussi des conseillères au niveau des associations. Et là, je connais un peu moins leurs possibilités d'évolution.
Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats qui veulent pratiquer le métier?
J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression... Disons que c'est un métier qui est complémentaire au métier d'assistante sociale. Et donc là, on touche vraiment la vie propre des gens, le terre à terre, le quotidien. Et c'est vrai que les personnes ont besoin de ça. Donc c'est une profession qui est récente puisqu'elle a été reconnue en 1973. Et on en trouve un petit peu partout, des conseillers ESF maintenant dans tous les domaines, aussi bien dans le handicap que dans des structures telles que l'hôpital ou les offices HLM. Donc c'est vraiment très vaste.
Et vous, pourquoi avez-vous choisi d'exercer ce métier?
Au départ, c'était pas forcément un choix. Et en fin de compte, quand j'ai découvert le BTS ESF, j'ai fait un bac F8 auparavant. J'ai découvert le BTS ESF. Et c'est vrai qu'on m'a fortement encouragée. J'encourage toutes les personnes qui font un BTS ESF de faire l'année de conseiller. Parce que c'est ça qui apporte le plus au niveau relation. Et donc, c'est vrai que ça me permet de rencontrer plein de gens, en fin de compte, des situations familiales complexes, mais c'est riche à la fois. Donc, voilà. C'est un peu par hasard, mais je ne regrette pas rien du tout.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut pratiquer ce métier?
Le plus dur, c'est d'avoir le BTS.
Oui.
Parce que c'est très technique, et souvent, on ne voit pas du tout le sens des cours. Mais voilà, faut garder le moral et le cap pour le BTS ESF. La 3e année, c'est vraiment c'est une année où on s'interroge sur sa pratique professionnelle, la relation avec l'autre, et donc c'est beaucoup plus enrichissant. Mais voilà, le BTS, voilà, c'est la phase obligée.
Quelle serait une journée typique d'une conseillère?
Alors moi, je fais que des visites à domicile, donc ça veut dire que j'ai des temps de transport assez conséquents. J'interviens sur 4 cantons ruraux, c'est vrai que je viens au domicile de la personne, je ne m'impose pas de durée, donc je peux y être 3 quarts d'heure comme 2 heures. Donc c'est un peu difficile des fois de gérer l'emploi du temps. Bon, au fur et à mesure qu'on connaît les personnes, on sait à peu près le temps qu'on sera au domicile. Donc, je peux faire 4 visites dans la journée, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail ensuite de bureau à faire. S'il y a besoin de faire des courriers, s'il y a besoin de faire un dossier de surendettement, s'il y a besoin de parler de la situation avec des partenaires, parce que je ne travaille pas toute seule dans la situation, et donc des relations avec l'assistante sociale ou l'éducateur ou la péricultrice. Donc, il y a beaucoup d'échanges, en fin de compte, toujours dans le bien de la famille pour travailler dans le même axe.
Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions, Madame Buon, conseillère économique, sociale et familiale.
Je vous remercie.
Micro cité spéciale forum des métiers.
Et on continue avec Maxime et son invité, Madame Poincheval, technicienne vocale.
Bonjour Evelyne Poincheval, technicienne vocale à la cité scolaire Paul Scarron.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'une technicienne vocale?
Qu'est-ce qu'une technicienne vocale? Alors, c'est quelqu'un qui travaille sur la voix, la sienne déjà, et celle des autres. C'est-à-dire qu'avec Dans ce métier-là, on peut travailler à la fois sur des gens qui ont des problèmes d'expression, ça peut être de timidité, de respiration, ça peut être d'élocution aussi. Et puis ça peut être aussi simplement travailler sur l'expression dans le sens d'interpréter un texte. Donc on va travailler sur la parole, sur l'écriture, sur la lecture, sur le chant aussi, et puis le silence, parce que c'est de là que tout part. C'est-à-dire que c'est quand on commence à écouter à l'intérieur de soi, on commence à avoir des réponses sur la façon de dire les choses, de communiquer avec l'autre. Voilà. Et on va aborder ces choses-là sur le fait de « je m'écoute, je suis écoutée et j'écoute aussi l'autre ». Voilà.
Avec qui travaillez-vous ?
Alors, je travaille avec, plus particulièrement à la cité scolaire, donc avec des collégiens et des lycéens. Mais je travaille aussi avec des adultes, des professeurs et puis des gens qui sont aussi hors de la cité scolaire.
Comment devenir technicienne vocale ?
Alors là, il y a plein de parcours. Moi, le mien, il est plutôt artistique, puisque avant, je faisais donc de... j'étais chanteuse, voilà. Enfin, je le suis toujours quand même, mais je vis moins de cela. J'ai eu tout un parcours aussi dans l'enfance dite inadaptée. Un parcours radiophonique aussi, un parcours aussi d'écriture pour la presse, voilà, et d'écriture personnelle aussi, de chansons, de poésie, et tout un travail aussi sur la voix que j'ai fait en conservatoire, que j'ai fait dans la méthode, avec la méthode Feldenkrais, qui est la prise de conscience par le mouvement, et aussi d'écoute de sons dans l'eau. Donc c'est toute une formation sur comment on perçoit les sons dès le milieu fœtal. Et donc j'ai travaillé comme ça, c'est un cheminement. Après on peut y arriver différemment, on peut être, je dirais, orthophoniste, on peut être aussi, comme j'étais par la maman, donc genre du spectacle. Il y a d'autres moyens d'y arriver, voilà.
Et vous alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier de technicienne vocale ?
Qu'est-ce qui me plaît le plus ? Je crois que c'est de voir les gens s'approprier leur espace de vie et s'épanouir dedans. C'est ce qui me touche le plus. Et puis aussi la beauté, parce qu'on fait aussi, enfin, avec les collégiens, les lycéens, je fais donc des productions, des pièces sonores. Hein. Et la beauté de ces pièces sonores me touche beaucoup et en même temps, je touche plein de gens. Donc c'est un beau moyen de communication, de partage, et je crois que c'est ce qui me touche le plus dans ce métier.
Quelles sont les qualités requises pour être technicienne vocale ?
Alors, il faut déjà être passionné par l'outil voix. Je pense que c'est déjà la première des conditions. Il faut aimer la voix, il faut aimer l'utiliser, la faire chanter. Il faut être curieux par rapport à elle, l'écouter. Et puis ensuite, il faut avoir une belle écoute des autres. Je pense que j'irais même jusqu'à mettre un amour des autres. Et c'est important d'accueillir, d'avoir envie d'écouter l'autre et de créer avec l'autre.
Quelles études avez-vous fait ?
Alors, les études, je vous ai dit ça tout à l'heure un peu. Hein. J'ai eu tout un parcours au travers de conservatoire, d'être intermittente du spectacle, un travail autour aussi de la prise de conscience par le mouvement, tout un travail sur le corps aussi, le yoga que j'ai pratiqué aussi. Donc j'ai pratiqué plusieurs dimensions comme ça, entre le corps, l'espace, la voix. Et c'est quelque chose que l'on... C'est un métier qui est tout le temps en évolution, donc tout le temps en recherche. Donc en fonction de ce que l'on vit et ce qu'on en devient, on va chercher des formations qui sont plus adaptées à notre propre recherche. Voilà.
Alors une question, c'est vous qui organisez votre propre emploi du temps ou vous êtes soumise à un emploi du temps fixe ?
Alors, à la fois j'organise et à la fois je suis soumise. J'ai les deux en même temps, c'est-à-dire que je peux proposer des ateliers, mais il faut aussi que je sois à l'écoute de l'emploi du temps des autres. Donc c'est une sorte d'accord entre les emplois du temps. Et parfois, je suis quand même souvent j'écoute plus les emplois du temps des autres et je m'adapte. Hein. Il faut un côté d'adaptation parce que quand on travaille par exemple dans une cité scolaire, quand les élèves sont en cours, on peut pas, sauf si c'est un projet de classe, on peut pas on est obligé d'attendre qu'ils soient soit en études ou pendant le mercredi ou pendant les vacances. Quoi. Et quand on travaille avec des gens hors, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la disponibilité des gens. Hein.
D'accord. Et vous ressentez aucune contrainte par rapport à votre emploi du temps ?
Non, je suis assez légère par rapport à ça. Bon, parfois, si, mais je m'arrange bien avec ça. Ça dépend beaucoup de ce qui se passe dans le temps de travail. C'est surtout ça qui est important.
Merci Evelyne Poincheval, technicienne vocale à la cité scolaire Paul Scarron.
Ben merci à vous deux.
Bonne fin de journée.
Au revoir.
Quel est le métier de géomètre ? Réponse avec Steven, qui est avec Monsieur Guy Herminet.
En quoi consiste ce métier ?
C'est un métier qui a des diverses facettes. L'image populaire la plus courante, c'est de planter des bornes et de délimiter des terrains. Mais en fait, le métier est beaucoup plus vaste que ça. Ça consiste à faire des plans, ça consiste à délimiter des terrains, ça consiste à résoudre des problèmes de voisinage, de servitude, ça consiste aussi à faire de l'urbanisme, des lotissements, de faire des terrains à bâtir. On a aussi l'activité de remembrement, on a toute une activité autour de l'urbanisme. On a aussi une activité d'administration de biens, syndic de copropriété. Vous voyez, c'est un métier extrêmement vaste dans les diverses activités qu'on peut avoir.
Quelles sont les études et où peut-on faire ces études ?
Alors les études, le niveau c'est Bac plus 5. Hein, c'est un niveau d'ingénieur. Et il y a trois écoles principales qui amènent à ce métier-là, dont une, la plus importante, qui se trouve précisément au Mans, qui s'appelle l'école supérieure ESGT, École supérieure des géomètres topographes. Donc voilà, qui est de niveau Bac plus 5. Alors on sort avec un diplôme d'ingénieur. Et après, il faut faire 2 ans de stage professionnel avant de pouvoir s'inscrire à l'ordre des géomètres experts.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?
Ah ben, il n'y a que des avantages. Si je le fais depuis plusieurs dizaines d'années, c'est que c'est... Bon, disons l'avantage principal, c'est qu'on a un mélange de travail à la fois sur le terrain et de travail de bureau, donc c'est extrêmement varié. On a beaucoup de contacts avec les gens. C'est un métier où on a beaucoup d'application du droit, d'application juridique. Et puis le fait d'être en contact avec les gens toujours, c'est enrichissant, c'est très agréable.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Parce que mon papa était géomètre expert. C'est une raison qui au début a été, j'allais dire, un petit peu déterminante. Donc on voyait bien ce qui se passait. Je faisais des petits travaux pendant l'été, comme tout le monde, comme tous les enfants. Et puis j'ai fait personnellement une école d'ingénieur autre que géomètre expert. Puis finalement, quand il s'est agi de rentrer dans la vie active, on se dit pourquoi ne pas rester là, c'est aussi bien là qu'ailleurs.
Où exercer ce métier et est-il possible de créer sa propre entreprise ?
Alors c'est partout en France évidemment. Alors il y a de temps en temps des créations d'entreprises, mais c'est rare parce que c'est assez rare parce qu'il faut, créer une clientèle, ce qui n'est pas toujours évident. Alors en général, les jeunes qui ont suivi cette filière-là, ils commencent par s'associer avec un géomètre en place qui est presque en fin de carrière, et puis ils prennent la suite tout simplement. Mais il y a un certain nombre de créations quand même. Par exemple, dans les Pays de la Loire que je connais bien, il y a une création par an. Mais c'est difficile de créer.
Merci Monsieur Guy Herminet, géomètre dossier Le Guillaume, d'avoir répondu à nos questions.
Voilà, c'est gentil de m'avoir invité.
Merci.
Micro cité spéciale forum des métiers.
Bonjour à tous, je suis avec Alexia et son invité Monsieur Garlot qui vont vous présenter le métier de sapeur-pompier.
Bonjour, Monsieur Garlot, sapeur-pompier, adjudant-chef.
Oui, bonjour.
Alors, à quoi correspond votre grade ?
Donc, le grade que je possède correspond à un parcours professionnel qui a débuté il y a 30 ans. Je suis issu du concours de sous-officier passé en 1992. Et ensuite, le grade adjudant, c'est par ancienneté et par unité de valeur. Il me faut bien sûr satisfaire à des examens et à l'ancienneté.
Et en quoi consiste réellement votre métier ?
Mon métier consiste principalement à porter secours aux personnes, puisque environ 70% de nos missions, c'est le secours à personne. Hein, les gens qui font des malaises, des chutes, des accidents du travail, les malaises, le secours à personne en général, les accidentés de la route. L'incendie représente moins de 10% à l'heure actuelle. Et ensuite, les opérations diverses liées aux intempéries.
Alors, à partir de quel âge peut-on devenir sapeur-pompier? Et depuis combien de temps l'êtes-vous?
Alors, ça va bientôt faire 32 ans que je suis sapeur-pompier. J'ai été pompier volontaire à l'âge de 17 ans. Mmh. Donc, à l'heure actuelle, il est tout à fait possible de rentrer dès l'âge de 16 ans, sous certaines conditions. Donc, étant donné que la personne est mineure, il lui faut un tuteur au centre et une autorisation parentale. Et après, que la personne satisfasse aux exigences imposées par le service, notamment en matière de matière médicale, écrit et sportif.
Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, particulièrement dans ce métier?
Bah, tout m'intéresse, hein, parce que je suis passionné. Hein. Pour être sapeur-pompier professionnel ou volontaire, il faut être passionné, parce que il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à réaliser. Il faut avoir ça, il faut avoir ça dans la peau, il faut avoir le virus. Mais ce qui me passionne, c'est de rendre service aux autres.
Pouvez-vous vous nous dire en quelques mots les avantages et les inconvénients d'un sapeur-pompier?
Ben, les avantages, c'est de rendre service aux autres. Hein. C'est lorsque les gens vous remercient ou ne serait-ce que par un sourire. Lorsque la situation change, ça nous suffit. Mmh. Et les inconvénients, ben, il faut être très disponible envers la population. Il faut être courageux, oui, parce qu'il y a des circonstances qui l'imposent, absolument.
Alors, comment faites-vous vos gardes par semaine, par jour?
Alors, au niveau des gardes, il y a dans le département de la Sarthe, il y a les pompiers du Mans. Ceux qui travaillent dans les deux casernes du Mans, ils font des gardes de 24 heures, suivies de 48 heures de repos. Donc, ils restent 24 heures en caserne. Ils y vivent, ils y mangent, ils y couchent. Il y a des gardes diurnes, c'est-à-dire des gardes de 10 heures dans d'autres centres du département. Et pour moi, personnellement, moi, je suis en 8 heures. C'est-à-dire que j'ai un service journalier. Du lundi au vendredi, je suis de service.
Alors, pouvez-vous nous dire à peu près en moyenne le nombre d'interventions durant une garde?
Bon, alors, je vais vous parler de l'activité opérationnelle du centre de secours de Sillé. Donc, l'année dernière, nous avons réalisé 421 interventions. Mmh. Environ 320 demandes de secours. Et le reste, ce sont des interventions pour Nidgep. Donc, ça fait pas loin, je dis bien pas loin d'une intervention par jour, sans les destructions d'insectes. On s'en rapproche. 320, il y a 360 jours d'année. On n'y est pas encore, mais on s'en approche tout doucement.
Et comment êtes-vous appelé pour une intervention?
Donc, les gens, lorsqu'ils ont un sinistre, un accident ou autre intervention, ils composent le 18 ou le 112. Ces numéros d'appel sont réceptionnés sur une plateforme téléphonique basée à Coulaines. Ensuite, les appels sont triés, déclenchés par informatique et ça déclenche le bip que chaque sapeur-pompier volontaire a sur lui lorsqu'il est disponible.
Donc, lorsque ça bip, le pompier, il est obligé d'intervenir?
Il est obligé d'intervenir, absolument.
D'accord. Et peu importe dans la situation qu'il est, il est obligé de...
Alors, il intervient lorsqu'il a son cursus de formation qui a été réalisé et s'il a réussi son examen. Lorsque la première année, vous êtes stagiaire, vous devez suivre une formation. Lorsque votre module opération diverse est terminé et que vous l'avez réussi l'examen, vous avez le droit de partir sur ce type d'intervention. Pour faire du secours à personne, il faut bien sûr avoir été formé. Il y a 12 jours de formation au total. Vous êtes sanctionné par un examen, vous avez réussi, vous avez le droit de partir sur ce type d'intervention. Et vous finissez par le module incendie qui dure 6 jours. Si vous n'êtes pas titulaire de ce module-là, vous ne pouvez pas partir en intervention, vous restez au standard. Ouais. Et vous prenez le rôle de stationnaire, c'est-à-dire la personne qui note les messages et qui traite par informatique le rapport.
D'accord. Alors, lors d'une intervention, à combien de personnes minimum vous devez intervenir?
Tout dépend le type de véhicule. Mmh. Pour faire du secours à personne, il faut être minimum 3, avec un chef d'agré qui est responsable du véhicule. Tout le monde doit être formé, bien entendu. Pour un départ de feu, c'est 6 personnes, avec un responsable de véhicule qu'on appelle le chef d'agré, qui lui est formé à ce type de responsabilité. Pour le secours routier, c'est pareil, il faut avoir les qualifications. Le minimum, à l'heure actuelle, c'est pour les opérations diverses, c'est-à-dire assèchement de locaux, inondations, nid de guêpes, on peut partir à 2. Et jamais on part tout seul.
Ah oui, c'est impossible.
Non, c'est impossible. Jamais, c'est, toujours deux minimum.
Avez-vous déjà eu peur lors d'une intervention ?
Oh, peur, oui, ça a dû certainement m'arriver, hein, mais je ne me rappelle plus quand. Hein.
Et avez-vous toujours des sensations ?
Des sensations ? Oh, sur les gros coups, on a des sensations, bien entendu, quand on est face à un événement sur lequel on n'est pas habitué.
Alors, aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait faire ce métier ?
Alors, pour faire ce métier, il a la possibilité soit de passer le concours. De toute manière, il ne pourra pas rentrer sans le concours. Il a la possibilité de rentrer sapeur-pompier deuxième classe ou sapeur-pompier officier. Mais dans les deux cas, il devra passer le concours. Il y en a un où le niveau est moins élevé, c'est-à-dire sapeur-pompier de deuxième classe, où on vous demandera un diplôme d'éducation nationale de niveau 4. Un BEP, un CAP, et pour être officier, il faut avoir un diplôme d'éducation nationale de niveau 2, au moins un bac minimum, voire un bac plus 2 à l'heure actuelle. Pour le premier, vous commencez au grade de sapeur deuxième classe, et pour le deuxième, vous commencez au grade de lieutenant.
Dernière question, est-ce que vous avez un salaire fixe ?
Ah, moi, personnellement, j'ai un salaire fixe puisque je suis professionnel.
D'accord. Mais les sapeurs-pompiers volontaires...
Alors ensuite, les sapeurs-pompiers volontaires, ce n'est pas un métier. Donc, eux, ils touchent des indemnités horaires en fonction du temps passé sur intervention.
Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Donc, je rappelle, Monsieur Garlot, sapeur-pompier, adjudant-chef, à Ciel-Guillaume. Bon après-midi.
Merci. Au revoir.
Le forum des métiers de la cité scolaire Paul Escarron dans Microcité, des interviews réalisées par Alexia, Steven, Sophie, Laura, Maxime et Pierre.